Vous êtes avec SBS French.
Les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 20 février 2020. Plus de 500 personnes évacuées du navire Diamond Princess qui est immobilisé dans le port de Yokohama depuis près d'un mois à cause de l'épidémie de coronavirus. La gestion de la crise par les autorités japonaises est fortement critiquée. L'ancien maire de New York, le milliardaire Michael Bloomberg, va participer ce soir pour la première fois à un débat avec les autres candidats à la primaire démocrate. Le prochain vote dans la course à l'investiture pour l'élection présidentielle américaine aura lieu samedi dans l'état du Nevada. Et en France, la plus ancienne centrale nucléaire en activité qui se trouve à Fessenheim va fermer. Son démantèlement va commencer samedi. Environ 500 croisiéristes ont enfin pu débarquer du navire Diamond Princess où ils étaient confinés depuis près d'un mois en raison d'un nombre important de cas de coronavirus à bord. Parmi ceux-ci, près de 200 Australiens ont quitté ce matin Yokohama à bord d'un vol spécial affrété par Qantas pour atterrir à Darwin en fin de matinée. Ils seront ensuite placés en quarantaine pendant 14 jours dans un ancien complexe minier se trouvant à Howard Springs, à une trentaine de kilomètres de Darwin. Pour ce qui est de l'épidémie de coronavirus, la Chine a annoncé mercredi 79 nouveaux cas d'infection, ce qui marque un ralentissement de la propagation du virus pour la deuxième journée consécutive. À bord du Diamond Princess, qui est immobilisé dans le port de Yokohama, il y aurait plus de 600 personnes atteintes, un record en dehors de la Chine et qui explique en grande partie pourquoi la gestion de la crise par les autorités japonaises est fortement critiquée. On fait le point avec le correspondant de RFI à Tokyo, Bruno Duval.
Un croisiériste sur six, donc, au moins, a été contaminé et ce bilan n'est toujours pas définitif. Sur le bateau, la situation était, je cite, « chaotique en termes d'hygiène ». C'est ce qu'un éminent professeur de l'université de Kobe dénonce dans une vidéo qui fait un tabac au Japon. D'autres spécialistes confirment qu'au début de l'épidémie, en tout cas, on n'a pas pris assez de précautions sanitaires à bord. Ils ajoutent que, les bateaux étant des nids à microbes, c'est à terre que cette quarantaine aurait dû se dérouler. Mais aucun hôpital ne pouvait accueillir les 3700 occupants du navire, répond le gouvernement. Qui, à l'évidence, n'a pas toujours été à la hauteur. Il a longtemps tardé à tester tous les croisiéristes et ce matin, il a fait débarquer des passagers à ce stade en bonne santé, oui, mais alors que des contaminations viennent encore d'être confirmées à bord, pour des épidémiologistes, c'est de la folie vu le délai d'incubation de la maladie. Le ton monte au Parlement et tous les sondages montrent que les Japonais sont mécontents de la manière dont cette crise a été gérée. Le Premier ministre Shinzo Abe dans ses petits souliers, lui qui, pour ne rien arranger, vient de voir sa cote de popularité dégringoler à cause de scandales politico-financiers. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Et puis une autre victime du coronavirus, c'est l'économie australienne. Le gouvernement prévoit d'ores et déjà un manque à gagner de plusieurs milliards de dollars pour le PIB australien en raison du ralentissement de la croissance chinoise, mais aussi de l'interdiction de voyager qui frappe les Chinois. Les secteurs les plus directement concernés, ce sont ceux du tourisme et de l'éducation, le budget des universités australiennes étant très dépendant des frais de scolarité payés par les étudiants internationaux, parmi lesquels on compte plus de 30% de Chinois. Et de son côté, la compagnie aérienne Qantas a, elle, annoncé aujourd'hui que la crise actuelle allait réduire ses bénéfices de 150 millions de dollars et qu'elle allait de ce fait supprimer 16% de ses vols vers l'Asie au cours des trois prochains mois. Un ralentissement que ne conteste pas non plus le ministre des Finances, Josh Frydenberg, qui a néanmoins tenu à rester optimiste dans une interview accordée à Sky News.
We'll maintain a watching brief across the economy more generally, because it's not just the tourism operators, it's also the international student market. We're also starting to see some of our export orders going down as a result of the slowdown in the Chinese economy. And you're also seeing disruptions in end-to-end supply chains as well, because so many of the Chinese factories are closed. But we'll get through this.
Et l'économie australienne est l'une de celles, en dehors de la Chine bien sûr, qui pourrait être la plus durement touchée par cette épidémie de coronavirus, puisque la Chine est de très loin le premier partenaire commercial de l'Australie, avec des échanges annuels qui ont frôlé les 200 milliards de dollars en 2018. Aux États-Unis, c'est ce soir que le milliardaire américain et ancien maire de New York, Michael Bloomberg, va faire son entrée officielle dans la campagne des primaires du Parti démocrate. Il va participer à un débat avec les autres candidats à Las Vegas en amont d'un vote prévu dans l'État du Nevada ce samedi. Michael Bloomberg s'est jusqu'à présent assez peu exprimé. Il a en revanche dépensé des centaines de millions de dollars dans des campagnes publicitaires. Il sera, à n'en pas douter ce soir, la cible de l'ensemble des autres candidats. Explication avec Stéphanie Schuller pour RFI.
Ce soir, tous les yeux seront rivés sur lui. Michael Bloomberg, candidat tardif et qui déploie une stratégie sans précédent pour décrocher l'investiture du Parti démocrate. En 3 mois de campagne, il a dépensé la somme record de 340 millions de dollars en spots publicitaires financés par sa fortune personnelle. Puis il a décidé de faire l'impasse sur les premiers états des primaires démocrates, peu pourvus en délégués, pour tout miser sur le Super Tuesday. Le 3 mars, quand voteront 14 états parmi lesquels des poids lourds comme la Californie ou le Texas. Mais ce soir, Michael Bloomberg joue gros. Bernie Sanders et Elizabeth Warren l'ont déjà accusé de vouloir acheter l'investiture. Ses adversaires n'hésiteront pas non plus à attaquer ce concurrent qui a prôné des années durant, à New York, des interpellations policières arbitraires, jugées discriminatoires envers les minorités, et les accusations de sexisme devraient également refaire surface. Bref, à Las Vegas, Michael Bloomberg entre sur le ring. Cet ancien républicain, devenu indépendant puis démocrate, ne va pas seulement devoir se défendre, mais aussi convaincre qu'il serait le mieux à même de battre Donald Trump.
États-Unis toujours, on a appris que le président Donald Trump aurait proposé en 2017 de gracier Julian Assange si celui-ci reconnaissait que la Russie n'était pas impliquée dans la publication par Wikileaks en 2016 des emails du Parti démocrate qui ont largement contribué à la défaite d'Hillary Clinton lors de l'élection présidentielle au cours de cette même année. L'information a été révélée par l'avocat de l'activiste australien au cours d'une audience préliminaire devant la justice britannique qui doit ouvrir lundi prochain son procès en extradition vers les États-Unis. La Grande-Bretagne, elle, a décidé de prendre le système migratoire australien pour modèle. Le Premier ministre Boris Johnson a dévoilé mercredi un nouveau système d'attribution de visa basé sur des points que les candidats à l'immigration reçoivent en fonction de leur âge, de leur niveau d'éducation, de leur maîtrise de la langue anglaise ou encore du niveau de leurs ressources financières. L'objectif pour Londres, limiter l'entrée d'immigrés peu qualifiés et ce, même s'ils sont des ressortissants de l'Union européenne. À Londres, Anastasia Becchio pour RFI.
Pour espérer décrocher un visa de travail au Royaume-Uni, mieux vaudra être ingénieur ou universitaire qu'ouvrier ou serveur. Il faudra aussi parler un anglais correct et avoir déjà une proposition d'emploi avec un salaire minimum annuel de 25 600 livres, soit près de 31 000 euros. Le nouveau système d'immigration à points entend privilégier les brillants cerveaux au détriment des travailleurs peu qualifiés. Les travailleurs migrants se verront attribuer des points selon leurs compétences, leurs qualifications et les niveaux de salaire. Il faudra décrocher 70 points pour pouvoir espérer travailler au Royaume-Uni, sachant qu'une bonne maîtrise de la langue en rapporte au maximum 20, tout comme des compétences appropriées. Autre nouveauté, les citoyens européens et non européens seront traités de manière égale. Le gouvernement veut encourager les personnes ayant les bons talents et réduire le nombre de personnes venant au Royaume-Uni avec de faibles compétences, affirme sans détour la ministre de l'Intérieur Priti Patel. Ces exigences suscitent des inquiétudes au sein de certains services publics britanniques tels que le NHS, le système de santé qui repose pour une large part sur des travailleurs étrangers parfois peu rémunérés. Ce système doit entrer en vigueur le 1er janvier 2021.
Et donc ce nouveau système d'immigration britannique est fortement inspiré du modèle australien où les permis de travail sont délivrés à ceux qui atteignent le nombre suffisant de points requis par l'administration australienne. Et ce système ici, il existe depuis la fin des années 70. On bascule maintenant vers la France puisque pour parler de la centrale nucléaire de Fessenheim, la promesse de sa fermeture remonte à la campagne présidentielle de François Hollande en 2011. Ça y est, Elle est enfin d'acter la fermeture définitive de la centrale la plus ancienne en activité dans le pays, puisqu'elle fonctionne depuis 42 ans, va enfin avoir lieu. Son démantèlement, à vrai dire, va commencer dès samedi prochain et elle cessera totalement de produire de l'électricité d'ici la fin du mois de juin. C'est un serpent de mer de la politique française, mais la fermeture de Fessenheim, désormais actée, amorce également le début de la transition énergétique souhaitée par le gouvernement actuel, qui veut réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique à 50%. On fait le point avec Simon Rose de RFI.
Elle aura donc fonctionné 42 ans. La doyenne des centrales nucléaires françaises va enfin mettre ses deux réacteurs à l'arrêt. Enfin, car c'est l'épilogue d'un feuilleton de presque 10 ans. C'est en effet en 2011 que le futur président de la République, François Hollande, annonçait son intention de fermer l'installation. Concrètement, ce samedi, le premier de ces deux réacteurs sera progressivement éteint. Le second le sera le 30 juin. Débutera alors un processus menant au démantèlement complet de la centrale à l'horizon 2040. Pour le parc français, ce seront 1800 MW d'électricité en moins. Pour se donner une idée, la France en consomme en heure de pointe 70 000 et en exporte 10 000. Le nucléaire représente de manière générale les trois quarts de cette électricité. L'objectif annoncé du gouvernement, c'est de baisser cette part à 50% dans 15 ans. Une décision politique, donc. D'un strict point de vue des émissions de gaz à effet de serre, le nucléaire fait en effet figure de bon élève. Il s'agit d'une source d'électricité qui n'émet pas de carbone. À titre de comparaison, l'Allemagne produit son électricité par un mix entre énergie renouvelable et charbon. Elle dégage ce mercredi 3 fois plus de carbone que la France.
Et pour terminer ce bulletin, on va maintenant jeter un œil à la météo de ce jeudi. Il y a des nuages dans le ciel de Melbourne où il fait 19 degrés. Le ciel est un peu moins couvert à Sydney où le thermomètre affiche aujourd'hui 24 degrés. 26 degrés à Canberra où il y a du soleil. Soleil également à Brisbane où il fait 33 degrés. En revanche, il y a des averses à Cairns où il fait aussi 33 degrés, à Darwin où il fait 34 degrés, mais également à Perth, aujourd'hui la ville la plus chaude d'Australie avec 35 degrés. La température est en revanche bien plus modeste à Adélaïde où il fait 24 degrés sous un ciel partiellement couvert.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.